en compagnie des revues, avec vous aujourd'hui Alexis Broca du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour Alexis.
Bonjour Mathieu, bonjour Arnaud.
Le Nouveau Magazine Littéraire dont le dossier est consacré ce mois-ci à Alexandre Solzhenitsyn.
Voilà, c'est le centenaire de Solzhenitsyn et donc nous consacrons notre dossier à cette figure à la fois intimidante et passionnante, en nous intéressant à son destin qui fait aujourd'hui partie de l'histoire et puis surtout en revenant au texte, parce que vous le savez Mathieu, c'est le problème avec ces écrivains qui deviennent des icônes ou des symboles, on tend à oublier de les lire. C'est pourquoi Alain Dreyfus, qui a coordonné le dossier, a demandé à Georges Niva, qui est un spécialiste de la Russie et un grand traducteur de Solzhenitsyn, eh bien de commencer ce dossier par un texte sur la prose de Solzhenitsyn. Et c'est assez intéressant parce que Niva, vous savez que Solzhenitsyn est connu pour ses œuvres monumentales, et Niva lui trouve un génie du format court. Et en effet, lorsqu'on regarde de près le mémoire L'archipel du Goulag ou le roman La Roue Rouge, on voit qu'ils sont truffés d'aperçus littéraires, de petits tableaux qui sont si bien écrits qu'ils confinent parfois à la poésie en prose. Et d'ailleurs, Solzhenitsyn a bien écrit des miniatures qui sont des aperçus souvent sur la splendeur de la nature russe. Je pense notamment au clocher de Kalyadzin qui a été réédité il n'y a pas très longtemps par Point. Mais ces moments de grâce stylistique sont aussi souvent des moments de politique puisque cela parle de la beauté des paysages russes, mais de la beauté souillée des paysages russes. Mm-hmm. Cela parle de la beauté de la langue russe, mais de la beauté encalminée de la langue russe. Voilà. On définit aussi l'écriture de Solzhenitsyn comme réaliste. Et c'est assez intéressant la façon dont Niva, lui, considère cette écriture. Il y trouve une sorte de poétique du surréel, une sorte d'hallucination du réel où le regard joue un rôle capital avec des duels de regards croisés entre couards et valeureux, impuissants et chanceux. Et là, sans doute, on retrouve le regard du zec, le regard du prisonnier. Lorsque vous êtes au goulag, un pas de travers peut vous valoir la mort et une pomme de terre congelée peut vous valoir la survie. Et lorsque vous regardez le réel de cette façon, forcément, vous écrivez pas comme tout le monde.
Alors, vous vous intéressez aussi dans ce dossier à l'exilé encombrant, pourrait-on dire, qu'a été Solzhenitsyn.
Oui, parce que cet exilé encombrant a laissé de nombreux souvenirs en France. Et c'est assez intéressant de revenir aujourd'hui vers cette époque et vers la réception de Solzhenitsyn, notamment la stratégie choisie par le Parti communiste français traiter ce qui était pour lui un sacré problème. C'était une stratégie d'ailleurs qui était calquée sur le discours soviétique. Le Parti communiste français disait « Solzhenitsyn ne ment pas, ce n'est pas un faussaire ». Mais ce qu'il dit nuit à notre cause, c'est donc un traître à la cause. Mmh. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est la réaction de la gauche plus modérée, qui était...
Mitterrand, par exemple.
Voilà, pas très enthousiaste. Alors Mitterrand a un remarquable exemple de casuistique mitterrandienne. Le plus important n'est pas ce que Solzhenitsyn dit, mais qu'il puisse le dire. Ah. Et si ce qu'il dit nuit au communisme, le fait qu'il puisse le dire le sert davantage. Voilà, et puis ce malaise de la gauche culminera dans un numéro d'Apostrophe très célèbre de 75 où Jean Daniel reprochait à Solzhenitsyn de ne pas dénoncer ce qui se passait notamment au Chili.
Ouais. Alors, vous parlez aussi avec le grand traducteur, enfin, ou l'un des traducteurs.
De l'archipel du Goulag.
Ouais, qui s'appelle donc Yves Amand. Vous a-t-il dit?
Alors, Yves Amand, c'est passionnant. Yves Amand, déjà, nous replace tout de suite sur le terrain littéraire en nous rappelant que Solzhenitsyn est un grand écrivain avant d'être une personnalité politique. Et surtout, il déconstruit la vision qu'on peut avoir en Occident de Solzhenitsyn comme prophète réactionnaire qui avait des mots aussi durs pour l'URSS que pour les États-Unis. En fait, nous explique Solzhenitsyn est d'abord un écrivain, il a été ce qu'il voulait être, et son grand sujet, c'est la Russie, la tragédie russe, sa douleur pour la Russie. Et lorsqu'il parle de la lâcheté de l'Amérique, d'ailleurs, il parle en quelque sorte en creux de la Russie. Voilà. Et puis, on a un grand article de Françoise Lesourd sur La Roue Rouge. La Roue Rouge, c'est ce roman de 6000 pages où Solzhenitsyn tente d'en venir aux racines de la révolution et de l'expliquer intégralement. Alors, c'est un échec, mais un échec de génie, comme je crois que c'est Niva qui dit ça. On a un article de Véronique Adorman sur ce que pense la Russie actuelle de Solzhenitsyn, à savoir un auteur classique, mais difficile. Et on termine, en fait, par des articles de Georges Niva et d'Alain Dreyfus sur le récit de Goulag, qui est devenu, par la force des choses et des baïonnettes, un genre littéraire en Russie. On parle du grand Varlam Chalamov, qui écrivit les récits de la Kolyma, qui sont édités chez Verdier. Ce sont des courtes nouvelles écrites dans un style remarquablement sobre. Ce sont là aussi des miniatures, des aperçus sur le Goulag. Et d'ailleurs, Solzhenitsyn avait demandé à Chalamov de collaborer à l'archipel du Goulag, de collecter des faits pour lui. Bon, Chalamov avait refusé. Et puis, on dit découvre des auteurs que je ne connaissais pas, comme Julius Margolin, auteur de Voyage au pays des Ecs. On se rappelle d'Evgenia Gainsbourg, qui a écrit Le ciel de la Colima. Et puis, on parle d'un glorieux prédécesseur, Anton Tchekhov. Tchekhov n'a pas été, oui. Il n'a pas été emprisonné.
Mais il était quand même dans les camps visités. Un peu.
Voilà, exactement. Il avait négligé sa médecine, disait-il, et donc il voulait se rattraper un peu. Donc, il est parti 3 mois sur l'île de Sakhaline. Il en a tiré un livre du même nom, et un livre assez étonnant, parce qu'on retrouve des pratiques qui ont été perpétuées par l'administration soviétique, qui a par ailleurs aussi beaucoup sophistiqué les choses dans l'horreur. Bref, du vieux monde faisant table rase, mais gardons ces prisons, elles peuvent toujours servir.
Et bien voilà qui donne envie de lire votre dossier. Nous aussi, on en parlera à la compagnie des auteurs de Solzhenitsyn. Ce sera en janvier prochain seulement, une manière de prolonger la célébration 2018. Merci Alexis Broca, à très bientôt.